Les As de la CoPro, le métier de syndic.
Métier de syndic, on a deux questions. Je voudrais qu'on aborde la nouvelle délégation au conseil syndical, article 21-1 de la loi de 65. Ça, c'est la loi Elan. C'est une nouvelle enveloppe allouée au conseil syndical. Quelle forme ça prend? Mais surtout, la question que je pose, parce que ça fait déjà 3 ans là, maintenant que le dispositif est en place. Est-ce que cette délégation, cette nouvelle super délégation, on l'appelait super délégation, certains l'appelaient super délégation, est-ce que c'est pas un flop 3 ans plus tard, Mathieu?
Alors, mon avis est que effectivement c'est un énorme flop, surtout si on met en perspective les ambitions, les attentes qu'on avait sur cette délégation. Je rappelle que l'idée de cette délégation est quasiment à l'origine de l'ordonnance de 2019, hein, puisque à l'époque, c'était, alors je crois...
On voulait faire un conseil d'administration.
Voilà, on parlait même de créer un conseil d'administration doté de pouvoirs extrêmement larges.
De personnalité morale.
Voilà. Et finalement, quand l'ordonnance de 2019 est parue, donc l'ordonnance a créé ce nouvel article 21.1, qui dans le texte paraissait quand même assez ambitieux. Alors je crois sous réserve qu'il y a au moins 3 membres du conseil syndical et qui souscrivent une assurance sur leur responsabilité civile, l'Assemblée Générale pouvait leur déléguer, c'est marqué dans le texte, tout ou partie des décisions que l'Assemblée Générale peut prendre à la majorité simple, à l'article 24.
Les travaux, quoi. Parce qu'il y a l'approbation du budget, voilà. Sauf l'approbation des comptes.
Et donc ceci quand même avec deux garde-fous, hein, un budget, une enveloppe maxi fixée par l'Assemblée Générale et une durée limitée à 2 ans maximum de la délégation.
Comptablement, d'ailleurs, on la traite de deux manières, cette enveloppe.
Alors voilà, l'article 21.1, encore une fois, est très large et donc on peut imaginer, enfin, et d'ailleurs le décret le prévoit, hein, soit une enveloppe au sein du budget courant.
Mais une ligne dans le budget
courant. Voilà, une ligne dans le budget courant. Mais dans ce cas-là, évidemment, le conseil syndical ne pourra pas prendre des décisions qui concernent des travaux hors budget courant. Ou alors, une enveloppe destinée à financer des travaux, alors qu'on appelait de l'article 14.2, hein, des travaux...
Donc, hors budget prévisionnel, courant, un appel de travaux. Fonds travaux.
Exactement. Donc, sur le papier, quelque chose finalement d'assez ambitieux et qui donne beaucoup de possibilités au syndicat des copropriétaires. On imagine... confier une enveloppe de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros au conseil syndical pour, en 2 ans, décider de la rénovation complète de l'immeuble. Pourquoi pas, hein, la limite étant que les travaux relèvent de la majorité simple. Et puis, quand le décret est apparu, c'était la douche froide. Alors, il y avait eu peut-être une première entorse parce que, de mémoire, l'objectif et l'idée de donner des pouvoirs accrus au conseil syndical, c'était notamment de faciliter les travaux de rénovation énergétique, de performance énergétique déjà, hein, en 2019. Et première entorse, alors je ne sais pas si c'est exprès ou si c'est concomitant, mais les travaux d'économie d'énergie qui relevaient de la majorité simple, à ce moment-là, sont passés à la majorité de l'article 25, qualifié.
Ils sont passés de l'article 24 à 25 en douce même.
Mais sans qu'on comprenne vraiment beaucoup pourquoi, même du tout pourquoi. Alors je me dis, peut-être que c'était lié à ça, dans le but que ça n'entre pas dans la délégation. En tout cas, c'était peut-être déjà une première limite à l'intérêt de cette délégation. Bon, mais quand le décret est paru, alors même si je crois qu'il prête encore à interprétation, mais sur le sujet des travaux hors budget courant, pour moi, ça a été la douche froide et la limitation absolue de l'intérêt de cette délégation, puisque le décret vient dire 2 choses. Hein. Il vient dire, quand on parle de dépenses hors budget courant, le montant maxi alloué pour chacune des dépenses objet de la délégation doit être voté en AG. C'est-à-dire que c'est la fin de l'enveloppe globale. Là, on vient définir précisément quel type de dépenses et donc quel type de travaux sont l'objet de la délégation. Et pour chacun, quelque part, des lots de travaux ou de ces types de travaux, on vote un budget maxi. Donc là, finalement, où est la délégation?
On n'est plus dans l'enveloppe carte blanche, faites ce que vous voulez, on vous fait confiance.
Je suis OK pour le ravalement de la façade, pour la réfection de la toiture, mais bon, c'est plus l'enveloppe globale laissée au libre choix et aux priorités fixées par le CS. Et puis surtout, deuxième limitation, hein, le décret dit que les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 14.2 de la loi de 65. Et alors là, quand on va lire l'article 14.2 de la loi de 65, l'article 14.2 dit « Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'AG. » Donc là, le serpent se mord la queue. On dit « Très bien, les sommes afférentes à la délégation seront appelées selon ce que l'Assemblée Générale aura décidé. » Alors, ça ouvre un peu à interprétation, mais enfin, moi, ma lecture, c'est très clairement que le Conseil syndical ne peut pas décider des dates d'exigibilité. Il n'y a que l'Assemblée générale qui le peut. Hein, c'est plus l'article 14.2 maintenant, c'est le grand 2 de l'article 14.1, mais peu importe, ça revient même. Tout ça pour dire que finalement, la loi posait, j'allais dire, un cadre relativement large, et le décret est venu, pour moi, saucissonner tout ça et limiter complètement, ce qui fait que l'intérêt est vraiment plus que relatif. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de...
Alexis, dans les faits, vous envoyez beaucoup des résolutions qui votent une vraie enveloppe dans le cadre de l'article 21.
Non, très, très, très peu. J'en ai pas vu encore.
Voire pas du tout.
Voire pas du tout, et quasiment pas. Après, sur les modalités, ne serait-ce que pratiques, si on lit ce que vient d'exprimer Mathieu, même sur les modalités techniques de la délégation, ça veut dire qu'entre le moment où la décision d'Assemblée générale délègue au Conseil syndical, avec des dates, du coup, des dates d'exigibilité qui sont déjà planifiées, ça laisse un champ temporel assez limité pour le Conseil syndical pour réaliser l'ensemble des tâches. C'est-à-dire que si j'ai mon Assemblée générale en février, que je décide les appels de provision, alors il faut qu'ils soient assez éloignés, hein, peut-être au mois d'octobre, ça laisse que quelques mois pour réaliser, proposer, faire les appels d'offres.
Et puis peut-être décider, que le Conseil syndical ne mettra pas en œuvre sa délégation et les appels de fonds auront été faits pour rien.
Non, mais c'est toute la difficulté après de mise en cohérence et de réalisation effective de la tâche, puisque finalement, c'est les dates d'exigibilité qui vont dicter la date de programmation des travaux. Et donc, du coup, en termes de rétro-planning, de caler l'ensemble des rendez-vous, des appels d'offres, des analyses des offres, de lancer le bon pour accord, etc., etc. Donc, même dans les modalités pratiques, ça complexifie.
Et puis, il y a peut-être une question de culture, copropriété, une question d'habitude, Sabrina. Peut-être que c'est une enveloppe, cette enveloppe est peut-être plus appropriée pour les grands ensembles où on a un conseil syndical organisé. Un peu à l'anglo-saxonne, effectivement, mais sinon, en pratique, on n'a pas l'impression que l'Assemblée générale ait envie de donner carte blanche, les yeux fermés, grosse enveloppe au conseil syndical. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que le conseil syndical ait envie d'endosser cette responsabilité.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de pouvoir le faire voter en Assemblée générale. Dans les faits, pour ma part, je ne l'ai encore jamais vu en pratique. Et aussi, est-ce que le Conseil syndical veut endosser cette responsabilité? Est-ce qu'il est prêt à prendre un budget et puis décider de travaux et devoir en justifier lors des prochaines Assemblées générales, au même titre que le syndic le fait également pour sa partie? Donc aujourd'hui, le Conseil syndical a en tout cas le même
déjà, faut qu'ils s'investissent dans la vie de l'immeuble. Déjà,
faut qu'ils s'investissent, tout à fait. C'est un des premiers, en tout cas, c'est aussi son rôle. Mais dès lors qu'il l'est, et dans des gros ensembles, on en trouve quand même des conseils syndicaux, hein, de plus en plus, hein, qui le sont et qui régissent aussi quand même la vie quotidienne, hein, d'un immeuble et travaillent avec le syndic. Et dans ces conditions même, ils n'ont pas forcément de budget alloué, en tout cas dans ces conditions, et qui leur permettent de faire des dépenses à leur gré.
Et puis c'est vrai qu'on a les immeubles tertiaires où là on est peut-être plus business, donc moi je le constate, hein, j'ai des immeubles tertiaires où c'est pas une délégation, c'est une autorisation de dépense un peu à l'ancienne qu'on voit encore passer dans certains PV. Pierre-Edouard, vous vouliez rajouter un mot?
Oui, exactement, sur l'ancienne délégation qui a jamais été légale, en fait. C'est assez cocasse d'ailleurs, c'est que...
Mais bien
la
pratique.
Réforme, bien pratique, mais la réforme, c'est vrai... Il y avait une inspiration d'un modèle anglo-saxon avec un conseil d'administration qui n'a pas été retenu. Je ne suis pas sûr que ça ait été l'inspiration de la disposition, enfin des dispositions nouvelles. Je crois que plus modestement, le législateur a ici essayé, enfin le gouvernement, c'était par ordonnance, enfin sur délégation, peu importe, mais il a été tenté tout simplement de recréer un mécanisme constaté en pratique. C'est-à-dire celui de déléguer de manière générale au Conseil syndical le pouvoir d'engager une décision pour un montant maximum. C'était ça, en fait.
Sachant qu'on avait déjà article 25 petit A.
Oui, mais 25 petit A, c'est justement là l'écueil, c'est que la jurisprudence nous a dit de manière systématique et là très constante que la délégation ne pouvait porter que sur un acte, c'est-à-dire sur une délégation, pour prendre une décision ou un acte pour un montant déterminé. Et ça ne peut jamais être un mandat général de prendre toute décision relevant de la majorité simple pour un montant qui caperait l'ensemble des décisions adoptées. Ça, c'était toujours quand il y a, alors, il y a assez peu de contestations, en vérité, mais quand c'était contesté, c'était annulé. Parce que ça n'est pas l'objet de l'article 25A. Et c'est pour ça que le 21.1 était pratique dans sa conception, c'est qu'il permettait de ratifier cette pratique en créant une délégation beaucoup plus générale. Et alors après, on est d'accord, hein, les dispositions, c'est vraiment une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il faut, déjà, il faut être juriste pour comprendre le mécanisme, parce que il y a une disposition générale qui ne correspond pas tout à fait aux dispositions du décret. C'est très complexe à mettre en œuvre avec deux systèmes budgétaires, avec des autorisations, des questions sur les appels de fonds, la date d'exigibilité. Enfin, c'est très
complexe.
Les
mutations, un PV du conseil syndical.
Exactement. Ce qui fait qu'en pratique, comme c'est trop compliqué, les syndics restent sur l'ancien système, qui est toujours aussi illicite.
Mais surtout, Pierre-Edouard, le décret dit que l'AG doit préciser le montant maxi alloué pour chacune des dépenses en
budget.
Oui,
donc c'est même plus une délégation globale.
Il n'y a plus de délégation générale.
Sauf pour le budget, et après on a effectivement des délégations. Alors, un principe qui peut être général de délégation, ça c'est le texte de loi, et après sur le décret qui en précise les modalités, on doit faire des montants par type de travaux.
Donc on retombe sur l'article 25A avec l'autorisation de
choisir l'ordre. Sur la pratique 25A, mais pas sur l'article lui-même.
C'est-à-dire que 25A, l'Assemblée Générale décidait de faire les travaux, votait un montant maxi et disait au conseil syndical, tu as délégation pour choisir l'entreprise.
Spécifiquement pour les travaux. Mais reste quand même le mécanisme de délégation générale pour toutes les autres décisions qui ne sont pas celles des travaux.
Voilà,
on n'a quand même pas tout à fait le même mécanisme qui est en œuvre. Et le fait de caper par décision de travaux, en fait, on comprend bien que juste après avoir pris le texte général, il y a eu un espèce de alors soit de prise de conscience, soit de
remords,
meeting, peut-être, et d'explication de texte en disant attention, 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 là il va y avoir un problème parce qu'on va se trouver avec des délégations trop générales. Et juste pour finir sur ça, ce n'est pas du droit, mais les sociologues, eux, qui font des études assez intéressantes, hein, même très intéressantes sur le sujet, nous disent que quand la décision n'est pas construite avec les copropriétaires, c'est là où on a le plus de contestation, finalement, de ces décisions adoptées. Et là, en fait, en déléguant massivement au conseil syndical, on va détruire la construction de la décision en assemblée générale avec les copropriétaires. Et c'est là où on a des risques, à mon sens, encore plus d'opposition. Et on le voit déjà avec le mécanisme de l'article 25A mal mis en œuvre par les syndics, avec des conseillers syndicaux qui font un peu parfois ce qu'ils veulent, avec des copropriétaires qui sont très en opposition et qui rentrent en conflit avec le duo syndic-conseil syndical qu'ils estiment être diabolique dans la copropriété et aller contre leurs intérêts.
Bon, c'est pas toujours le cas, heureusement.
Non, pas du tout. Mais c'est un sentiment, c'est une réaction qu'on constate. C'est pas du tout une réalité. Mais c'est ce qu'on peut voir à la genèse d'un certain nombre de contentieux.
C'est un syndrome français, puisque visiblement, dans les pays anglo-saxons, ça fonctionne bien. Donc ça doit être un
syndrome. Ouais, mais nous, on est latins, on est un pays latin. merci beaucoup. On enchaîne sur la deuxième question, le métier de syndic. On est toujours dans la pratique. Là, je voudrais qu'on parle du référé préventif. Déjà, qu'est-ce que c'est, un référé préventif? À quoi ça sert? Et subsidiairement, est-ce qu'il faut prendre systématiquement un avocat ou, une fois qu'on l'a désigné, est-ce qu'on est systématiquement obligé de le convier à toutes les réunions? Sabrina, déjà rapidement pour nos auditeurs, un référé préventif, c'est quoi?
Alors, un référé préventif, donc déjà, il faut savoir que c'est fondé sur l'article 145 du Code de procédure civile. C'est une procédure rapide qui se fait devant le tribunal judiciaire pour lequel, en général, un promoteur, un constructeur, dès lors qu'il a une construction, une réhabilitation qui va, en tout cas, impacter les avoisinants, va engager à signer devant le tribunal judiciaire ses voisins pour obtenir la nomination d'un expert judiciaire. Donc cet expert judiciaire, il aura en pratique, hein, ça se passe comme ça, il y a l'assignation, tous les avoisinants reçoivent l'assignation et l'expert judiciaire aura une mission qui sera rendue sur ordonnance dans laquelle il va convoquer une première réunion d'expertise, il va convoquer toutes les parties, toutes ces parties pour pouvoir, exposer avec le promoteur, en lui demandant évidemment les pièces, mais exposer le projet de construction, de pouvoir aussi Faire un état des lieux, c'est pour ça qu'il l'a, on l'appelle référé préventif.
Avant travaux.
Exactement, avant travaux, avant démarrage du chantier, de façon à ce que les parties prenantes, en tout cas celles qui peuvent être impactées, puissent être informées, puissent avoir des renseignements sur le projet, mais connaître aussi le phasage des travaux, connaître la méthodologie des travaux qui vont être réalisés. Ça va être également l'expert judiciaire qui a une compétence autre qu'un homme de loi, il va avoir une compétence technique du bâtiment, il est souvent architecte, ingénieur du bâtiment.
S'il y a des fissures pendant le chantier, il pourra donner son avis.
Exactement. Alors, on peut comparer un peu, enfin, on peut comparer, en tout cas, on peut faire un parallèle avec une mission d'un huissier de justice. Alors, l'huissier de justice, là, en homme de loi, lui, va intervenir pour faire un état des lieux.
Un pur constat.
Un pur constat à un moment donné. Lui, l'expert judiciaire, a une mission beaucoup plus large parce qu'il va intervenir avant le démarrage des travaux, il va suivre les opérations d'expertise durant tout le chantier, et il va intervenir aussi s'il y a un litige avec les avoisinants lors du chantier.
À la fin, puisque à la fin, avant travaux, il fait un état des lieux avant travaux, à la fin des travaux, il fait un état des lieux après travaux, et il détermine, c'est dans sa mission, si les fissures qui sont apparues pendant le chantier, avec les vibrations, sont de la responsabilité du promoteur. Parce que finalement, préventif, c'est surtout préventif pour le promoteur, puisqu'on parle de troubles de voisinage, on parle d'inversion de la charge de la preuve, et c'est surtout, je crois, les assureurs qui demandent au promoteur de faire ce référé préventif. Parce
Sinon,
ce sera à lui de prouver que la fissure était déjà là avant les travaux, ce qu'il ne pourra jamais faire.
C'est tout à fait ça. Et j'ajoute aussi que le promoteur qui lance cette procédure, qui n'est pas une procédure obligatoire, le référé préventif, néanmoins, s'il ne le fait pas, on l'a vu dans des cas, dans certains litiges et contentieux qui ont été portés devant le tribunal, à 100%, enfin 100% des fois où un voisin vient déclarer une fissure ou autre alors qu'il n'a pas fait le référé préventif, le promoteur est lui-même condamné.
Oui, parce
donc
que...
il a plutôt intérêt à le faire. Et
des fois, c'est vrai qu'on voit apparaître, les copropriétaires voient apparaître des fissures, c'est la première fois qu'ils les voient, mais en fait elles étaient déjà là depuis longtemps. Alors c'est vrai que c'est souvent des réunions un peu techniques, des états des lieux où il n'y a pas vraiment de débat juridique. Est-ce que la présence de l'avocat est nécessaire quand on se fait assigner, parce que on se fait assigner, on reçoit une assignation en bonne et due forme, Pierre-Edouard.
Oui, c'est un acte effectivement judiciaire, donc il y a un acte d'assignation qui est délivré aux différentes parties. Si le syndicat entend être représenté, peu importe d'ailleurs que ce soit un syndicat ou un propriétaire d'un bâtiment en monopropriété, il devra, pour participer à la procédure de désignation de l'expert, être représenté par un avocat. C'est une représentation obligatoire parce que, d'un point de vue technique, on considère que, enfin, c'est la jurisprudence qui l'a estimé, qu'on ne pouvait pas rattacher cette demande à une demande en paiement de moins de 10 000 euros et que, de ce fait, c'était dans le champ de la représentation obligatoire, même si c'était une procédure orale, ce qui est le référé. Donc, pour participer à la procédure, formuler des observations, il faut être représenté. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à être représenté à la procédure ?
Est-ce que l'avocat est obligé de venir à toutes les réunions ?
Alors, il y a deux choses. Il faut distinguer la procédure et l'expertise, le déroulé de l'expertise elle-même. La procédure pour la désignation, on pourrait se demander si l'avocat est toujours utile, parce que des fois, il ne se passe vraiment rien dans le cadre de la procédure. C'est-à-dire qu'il y a une sollicitation de désignation d'un expert. Tous les conseils y vont pour dire PR, c'est-à-dire protestation et réserve d'usage. En fait, il n'y a pas de conclusion, parce qu'on sait très bien que les juges vont ordonner l'expertise. Donc, il n'y a pas tellement de protestation, enfin, de réelle opposition à la demande. Donc, dans ce cadre-là, si le syndicat est d'accord pour qu'il y ait une expertise, au fond, peut-être qu'il pourrait tout simplement laisser passer la procédure qui lui sera opposable. Mais après se pose la question de la représentation en cours d'expertise. Là, le texte n'impose pas la représentation, la présence d'un avocat au moment des réunions d'expertise. Cependant, je crois que c'est très utile pour le syndicat ou pour les propriétaires riverains concernés, parce que l'expert sera peut-être plus sensible aux observations d'un professionnel du droit. Et s'il y avait, parce qu'il y avait des complications, des dires à échanger, là encore, c'est une technique juridique et judiciaire que les avocats maîtrisent et que les parties ne sont pas toujours à même de maîtriser. Et le syndic aura peut-être des difficultés à le faire lui-même pour représenter parfaitement le syndicat des copropriétaires. Par contre, c'est vrai que ça a un coût. Alors, dans la majorité des hypothèses...
Il peut durer plusieurs années. Il faut rajouter un budget avocat dans le budget prévisionnel.
Certes, mais le référé préventif, strictement, c'est un référé qui se passe avant l'opération, avant sa réalisation, parce que c'est une mesure en fait d'instruction qu'on a dit in futurum, c'est-à-dire qu'on anticipe le litige. Donc on n'est pas encore en cas du litige, donc on fait l'état des lieux, on constate l'état et on a un rapport. Éventuellement, après, on ressaisira le même expert pour constater les évolutions. Et là, on est déjà dans un litige. Mais dans la première phase, au fond, il peut se passer des choses très simples. Une réunion sur site, on visite l'immeuble, le syndic va organiser cette réunion en prévenant les copropriétaires, on va permettre de rentrer avec l'expert, de faire le tour des parties communes et des parties privatives, et c'est fini. Donc ça peut durer une demi-journée, et il ne se passera rien d'autre. Donc là, la présence de l'avocat n'entraîne pas un coût exceptionnel.
En pratique, est-ce que l'expert revient quand même à la fin pour revisiter tous les appartements où on lui a signalé des désordres ?
Non, c'est-à-dire que si on va saisir à nouveau le tribunal et l'expert parce qu'on a constaté des désordres, qu'il y a des problématiques, là on va engager une nouvelle expertise, mais ce ne sera plus une... Enfin, en fait, c'est un même référé expertise, mais il est plus préventif dans ce cas. Alors l'appellation de préventive, elle est donnée par la pratique. Le texte ne nous dit pas référé préventif. D'ailleurs, il y en a plein.
C'est un référé expertise.
Référé expertise, référé préventif, référé probatoire. On utilise plusieurs appellations. Mais on est bien dans la phase en amont. Pas au moment où il y a des désordres qui se produisent. Là, on n'est plus pour créer la preuve. On est là pour constater le désordre et analyser pourquoi elle est là. Est-ce qu'il y a une cause qui est liée aux travaux et quels sont les modes de réparation de ce désordre. Et là, la présence de l'avocat, à mon avis, est tout à fait nécessaire.
Les As de la CoPro sur Radio Immo.